Donc on va reprendre notre suite. On était dans les Corinthiens depuis quelque temps, vous savez. Donc on avait vu le chapitre 13. Et maintenant, après le 13, il y a le 14. Hein. Si vous demandez à Malia, elle va vous dire ça. Donc il y a une suite. La gloire de Dieu dans l'Église. C'était le thème de toute cette série qui allait du chapitre 12, donc au chapitre 14, on arrive vers la fin. En 12.1, nous avions lu, « En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Et l'apôtre Paul a ce souci pastoral auprès de l'Église de Corinthe, qu'il comprenne bien ce qu'est la réalité des dons que Dieu a fait à son Église. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer un don particulier qui est le don de prophétie. Dans le chapitre 14, il est question du don de prophétie, de don de parler en langue. Parler en langue, on le verra à une autre occasion. Mais là, on va se focaliser sur le don de prophétie pour tout ce long chapitre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être prophète ou qu'est-ce que c'est que prophétiser? Si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous avez remarqué dans l'Ancienne Alliance qu'on retrouve souvent l'expression « Ainsi parle l'Éternel ».« Ainsi parle l'Éternel ». J'ai compté il y a presque 270 fois cette mention dans nos Bibles. Et donc, c'était des prophètes et prophétiser, donc c'est parler de la part de Dieu, c'est parler de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'une prophétie? Comment prophétiser? Qui peut le faire? Et comment connaître qu'une prophétie est valable ou pas? En tout cas, du temps des Corinthiens, donc au 1er siècle, c'était une évidence pour Paul, et il enseigne cela. Donc, 1er épître aux Corinthiens, chapitre 14. 1er épître aux Corinthiens, chapitre 14. Alors, je vais pas lire tout le chapitre en entier, parce qu'il est un peu long. On va se focaliser sur ce qui concerne la prophétie, et il y a des développements, l'essentiel des développements que l'apôtre fait concerne le parler en langue, qu'on verra une autre fois, donc on ne va pas investir du temps dans la lecture. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais lire la traduction de la seconde 21. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage et les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus, que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier interprète pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? On va avancer au verset 12. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder en abondance les dons, ceux qui édifient l'Église. C'est pourquoi, donc là, je vais avancer au verset 18, je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants, au contraire. Pour le moment, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Sinon, alors que l'Église entière est assemblée, tous parlent en langue, qu'il entre un simple auditeur ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc? Frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, peut apporter un enseignement, peut apporter une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y a-t-il qu'il parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun en son tour, et que quelqu'un interprète, et s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Et verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il connaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Et il conclut ainsi, « Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. » Donc, prophétiser dans la paix pour construire l'Église. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la façon dont tu nous l'as transmise. Des fois, ça nous semble des choses qui sont lointaines, Seigneur, mais conduis-nous vers ce qui est important pour nous au 21e siècle, dans la situation que nous vivons, Seigneur, et que cette parole puisse porter du fruit dans ton Église. Merci de garder ouverte notre attention. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, quel est le contexte du propos de l'apôtre Paul? Alors, Paul écrit à une église du 1er siècle. Ça ne vous a pas échappé. C'est une église qui ne disposait pas de Nouveau Testament, comme on l'a, nous, à notre possession. Et il n'y avait pas le système de message, de prédication qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait toute une partie de la Bible qui manquait. Paul écrit à une église du 1er siècle. Paul écrit aussi à une église charnelle. C'était des personnes, des chrétiens qui étaient très orgueilleux. Moi, je suis de Paul, vous vous souvenez. Moi, je suis de Céphas. Et ils aimaient paraître, et ils aimaient... l'éloquence, avoir une bonne prestance, c'était quelque chose qui était important. Dans cette église, il se laissait faire également beaucoup de mauvaises choses. Et l'apôtre Paul souligne tout cela. Ils avaient également des compréhensions de ce qu'était la spiritualité qui était faussée, surtout en ce qui concerne le mariage, les relations conjugales. Et on peut dire qu'ils étaient également égoïstes. Faites tout pour la gloire de Dieu, va leur enseigner l'apôtre Paul, et non pour vous-même. Une église du 1er siècle, une église charnelle. Et le contexte de notre lettre aussi nous rappelle, et ça c'est pour nous valable, tous les dons sont assujettis à l'amour. On a vu le chapitre 13, où l'apôtre a développé ça, et notre chapitre est bien placé juste après. Recherchez l'amour, écrit l'apôtre aux Corinthiens. Dans ce mot rechercher, c'est le mot qui ailleurs est traduit par persécuter. Courez après l'amour, c'est vraiment quelque chose qui est la priorité des priorités pour nous, enfants de Dieu, c'est de rechercher l'amour, de l'avoir en ligne de mire, et tout don, toute prophétie qui n'est pas pilotée par l'amour, ben, comme pour les autres dons, c'est pas valable. Hein. Donc, l'amour, premièrement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce passage nous apprend? Qu'est-ce que c'est que le don de la prophétie? Alors, il y a un mot-clé qui revient, vous avez remarqué dans le passage, c'est édification. Édification, bâtir, construire. La prophétie est importante. Dans les premiers versets, rechercher, aspirer à l'amour, mais aussi au don spirituel, mais surtout à la prophétie, écrit l'apôtre. Au verset 5, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus, je désire que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Et au verset 12, verset 38, et il conclut, aspirez au don de prophétie. Et n'empêchez pas de parler en langue. Donc c'est quelque chose qui tenait beaucoup à l'apôtre Paul. Si les prophéties, on avait lu dans l'épître, dans le chapitre 13, juste avant cette prophétie de Paul, qui disait, chapitre 13, verset 8, les prophéties seront abolies. Et un petit peu plus loin, on avait dit, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et beaucoup de frères et sœurs comprennent à travers ce passage que, ben voilà, maintenant que le Nouveau Testament est là, il n'y a pas besoin du ministère prophétique tel qu'il est présenté du temps de la première Église. Les choses ont changé depuis, les choses ont évolué, mais tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Et surtout, on a tout ce grand chapitre 14, mais alors, si tous ces dons ont disparu, à quoi servirait le chapitre 14? Pourquoi le Saint-Esprit nous l'a laissé, ce chapitre 14? Je crois que ce que l'on vient chercher tous les dimanches, quand on vient à l'Église, eh bien, on s'attend à ce que Dieu nous parle. On vient pour rencontrer Dieu et on vient pour que Dieu nous parle. On vient pour recevoir quelque chose de lui, et ça passe souvent par la communication, par la parole. Plus que les miracles, nous avons besoin que Dieu nous parle. Dans les dons et dans les ministères, l'apôtre Paul a placé premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, et ensuite les manifestations miraculeuses. Nous avons besoin d'être à l'écoute de Dieu. Et c'est pas surprenant, hein, lorsque nous avons des enfants, nos enfants, ils cherchent leurs parents, que leurs parents leur parlent. Si des parents dont les parents ne leur parleraient jamais, ah ben, qu'est-ce qu'ils vont devenir, hein? On est disciple, si on suit un enseignement, on s'attend à ce que notre maître, notre enseignant, notre professeur nous parle. Et Dieu parle à son peuple pour le construire. Donc, dans ce sens-là, la prophétie reste toujours d'actualité et on recherche que Dieu nous parle. Donc, c'est important. D'autant que la prophétie s'adresse aux chrétiens. L'apôtre le souligne, hein, au verset 3 et 4. Celui qui prophétise parle aux hommes. Il parle aux hommes. Alors, il y a bien sûr beaucoup de façons dont Dieu peut communiquer avec nous. Il le fait par la lecture de sa parole. On lit tous les jours sa Bible pour justement recevoir du Seigneur. On prie en retour. Il y a cet échange, cette communication. Dieu parle également par des visions, par des songes. Cela est bien sûr beaucoup moins fréquent, mais cela existe, cela arrive. Dieu peut nous parler de cette façon-là. Et Dieu donc, notre texte dit, il parle par la prophétie. C'est une autre personne qui va nous parler de la part de Dieu. Un autre frère, une autre sœur va nous parler de la part de Dieu. Les prophètes fondateurs qui ont rédigé le Nouveau Testament, sur l'Éphésiens 3:6, ne sont plus là, mais Dieu parle chaque fois que nécessaire. Comment ça peut se présenter concrètement? Je peux vous raconter une anecdote. L'église n'était pas fondée ici, il n'y avait que des groupes de maisons qui s'appelaient déjà Autour de la Bible, qui avaient lieu une fois par mois chez René et Esther Skin. Il y a plusieurs années de cela. Et donc, on envisageait de ouvrir une église à Figeac. C'était le thème, c'était le sujet, c'était les prières. Et c'était Anne-Lise de Bernard qui était venue une fois à la réunion. Elle n'avait pas l'habitude de venir. Et puis, je sais pas quoi, est-ce qu'on a tourné là un petit peu autour de notre sujet. on était timides. On ne savait pas ce qu'on y va, on n'était pas sûr de nous. Et donc là, elle nous a cité, à un moment donné, elle a cité ce verset de Jean 15:16, qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et on était là, on a reçu vraiment ça comme venant du Seigneur. C'était le Seigneur qui nous parlait à ce moment-là. Et ça nous a saisi on avait besoin d'entendre cela à ce moment-là. Et donc c'est cette sœur que le Seigneur a utilisée. Les prophéties s'adressent aux chrétiens. Les prophéties servent à édifier l'autre. Les prophéties servent à édifier l'autre. Versets 3 et 4 et 12. Celui qui prophétise parle aux hommes, il les édifie, il les encourage, il les réconforte. Celui qui prophétise édifie l'Église. Au verset 12. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ce qui édifie l'Église, ce qui bâtit, ce qui construit l'Église du Seigneur. Voilà ce qui est important à chercher. Et voilà ce que le but et le rôle de la prophétie, il est là. Nous avons lu tout à fait dans les chapitres précédents, en Corinthiens 12, 7, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Et tous les dons, donc, servent à l'Église, servent au bien commun. Si on se souvient des prophéties de l'Ancien Testament, que faisaient les prophètes? Ils rappelaient l'alliance du passé, ils rappelaient la sortie d'Égypte, ils rappelaient tout ce qui avait été institué lors de l'établissement de l'alliance au mont Sinaï. Ils dénonçaient les péchés, ils dénonçaient ce qui allait pas dans le peuple. Ils réconfortaient, ils encourageaient chaque fois que le peuple était découragé, lorsqu'il était abattu. Ils donnaient de l'espérance au peuple de Dieu en leur disant voilà ce qui va arriver dans le futur. Des projections de l'avenir, particulièrement de la venue du Messie, qui était un encouragement, une forte espérance pour le peuple de Dieu, pour lui faire avancer. Et on déroulait également tout le plan de Dieu qui se dévoilait avec leur message petit à petit. La prophétie édifie, encourage, console aujourd'hui. Alors édifier, c'est bâtir, c'est construire. Hein, on bâtit des maisons, on met des fondations, on bâtit dessus, on a quelque chose qui s'élève. Et donc l'idée de bâtir l'Église, mais de nous bâtir aussi nous-mêmes, de nous faire grandir, de nous encourager. C'est le mot paraclésis là, appeler contre soi. Et on prend quelqu'un contre soi pour le consoler. On prend quelqu'un contre soi pour lui donner du courage. On prend quelqu'un contre soi pour l'exhorter, pour le stimuler. Et le rôle de la prophétie, ça sert à ça. Et il parle aussi du mot de consolation, qui est un mot très fort. C'est le mot qui correspond aux paroles qui sont prononcées quand une personne est dans le deuil, quand le deuil est là, ou quand on est face à une très grande épreuve. Il y a des mots, il y a des paroles qui vont être données pour consoler. Et par la prophétie, le Saint-Esprit fait ce rôle de consolation. Donc, la prophétie travaille à côté de l'enseignement et à côté des autres dons dans le contexte de l'amour. Alors, peut-être vous avez fait l'expérience d'être visé pendant un culte, pendant une réunion, vous vous sentez visé tout à coup par quelque chose que notre personne dit, et ça vous rentre comme une flèche dans votre conscience, et là vous êtes touché, et là, oula, Dieu m'a parlé. Peut-être avez-vous fait cette expérience. Même la prophétie prédictive de faire annoncer des choses qui vont se passer dans l'avenir, ça contribue à l'édification. On le voit dans les exemples que nous donne le Nouveau Testament. Le prophète Agabus, hein, il avait annoncé une famine. Il était à Antioche, il avait annoncé une famine. Et donc l'église de Antioche avait pris ça très au sérieux, ils s'étaient préparés. Et quand la famine est arrivée, ils ont envoyé du secours et de l'aide à l'église de Jérusalem. Donc c'était utile, c'était dans le cadre de l'amour, de la solidarité de l'église, ça avait un but. Cette prophétie-là. Il est mentionné également qu'il a annoncé le martyre de Paul quand ils étaient là à Éphèse. Et à ce moment-là, tous les frères qui étaient là, ils ont pris conscience qu'ils voyaient le visage de Paul pour la dernière fois, et ils se sont fondus en larmes. Ils ont dit, non, ne va pas à Jérusalem, n'y va pas. Et ça a touché profondément l'apôtre Paul. Il a eu du mal même à résister à leur demande. Mais c'est quelque chose qui a, à ce moment-là, il a su l'amour et la grande affection que ses frères et sœurs avaient pour sa personne. Et c'était quelque chose que Paul devait avoir besoin à ce moment-là. Vous me direz, les prophéties qui font des prédictions comme ça, est-ce que ça se produit si souvent que ça de nos jours? Est-ce que vous connaissez Emilio Bellotti? C'était un prédicateur itinérant qui a beaucoup travaillé en Suisse francophone et aussi en France. Dans la dernière période de sa vie, il s'est marié avec Dorly Buisson, qui est la veuve de Jacques Buisson, donc qui avait fondé l'église de Gramat. Donc il y a un certain temps, lui il s'est remarié, il était très âgé avec Dorly Buisson, ils étaient tous les deux veufs. Et il avait reçu une prophétie de sa femme qui lui disait qu'un jour il se marierait avec Dorly Buisson, et les deux étaient à ce moment-là, chacun était en ménage de son côté. Et donc, quand il s'est souvenu de cette prophétie, donc il n'a pas eu peur ni honte de s'engager au niveau dans le mariage. Je ne sais plus quel âge il avait, mais il devait avoir plus de 80 ans. Hein. Et ça l'a stimulé, ça l'a boosté dans son ministère, et il a pu encore travailler, apporter des prédications. Il venait ici le dimanche. Donc il y a derrière tout cela le besoin d'édification, le souci d'édification des autres. C'est pour les autres, chaque fois. C'est tourné vers les autres. La prophétie édifie l'autre. La prophétie participe également à l'évangélisation. Au verset 25, on voit ça dans notre texte. Si tous prophétisent et qu'un croyant entre dans, c'est comme simple auditeur, il est convaincu du péché par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, il tombe alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Et il y a des visiteurs qui viennent à l'église, peut-être des fois avez-vous amené des personnes à l'église et vous avez eu, ça arrive régulièrement, où la personne vous dit « mais pourquoi il a parlé de mes affaires là, le prédicateur là, dans son message, pourquoi il a parlé de moi ? Pourquoi il a parlé ?» En fait, c'est Dieu utilise les messages, il utilise ce qui se passe dans l'église pour parler aux personnes qui sont pas encore converties. Vous me direz, c'est l'apôtre dit que c'est pas pour les non-croyants. Mais là, on a des affaires à des personnes qui cherchent Dieu, s'ils sont venus au culte, c'est pour parce qu'ils sont, on dit en recherche, ou qu'ils ont besoin, ou Dieu les a en vue, et la prophétie donc va participer aussi à ce travail d'évangélisation. Alors, il y a sans doute d'autres choses à dire sur la prophétie. J'ai prévu de m'arrêter là. Le deuxième volet, c'est comment pratiquer la prophétie. C'est l'autre enseignement de Paul dans ce chapitre. Comment pratiquer la prophétie. Et donc, on a un verset clé, là, le verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dans la paix, et donc on a le désordre et la pagaille. C'est ainsi que le ministère prophétique doit fonctionner. On peut soulever que la prophétie est un don ouvert. Il y avait du temps des apôtres, des prophètes qui étaient vraiment reconnus avec un ministère prophétique. Et donc, par exemple, il est cité dans Acte chapitre 13, par rapport à l'église d'Antioche, il y avait Barnabas, Siméon, Lucius, Manaen, Saul. Il s'agit là des prophètes fondateurs. C'est pas ce qui nous concerne maintenant. À côté de ces ministères fondateurs, tout croyant est appelé à prophétiser dans l'église. L'apôtre Paul insiste là-dessus. C'est un ministère qui est ouvert. Je désire tout ce que vous prophétisiez. Et en acte 11, on a vu qu'il était ouvert aux hommes comme aux femmes. Les femmes prient et les femmes prophétisent également comme les hommes dans l'église. La prophétie est un don ouvert. Il insiste de pas tout le monde en même temps. Tout le monde ne doit pas parler en même temps. Alors ça peut nous surprendre, mais il y avait un problème comme ça dans l'église de Corinthe à ce moment-là. Dieu n'est pas un réseau social qui ait une onde d'informations et toutes les informations arrivent en même temps, hein, comme si imaginez quelqu'un qui est plusieurs bouches et tout le monde qui parle de plusieurs choses en même temps. On peut suivre, nous autres, les humains, qu'une seule conversation à la fois. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à en suivre deux, mais ils sont vraiment très forts. En tout cas, moi, j'ai du mal rien qu'avec une. Donc, Dieu parle de façon intelligible, de façon à se faire comprendre. Et les prophéties ne s'adressent pas forcément à tout le monde. On a vu avec l'exemple qu'il a pris de ce non-croyant qui était là. Des prophéties étaient pour lui, elles n'étaient pas pour les autres personnes, mais personne ne le savait. Hein, personne ne le savait. Donc, pas tout le monde en même temps. Versets 29 et 31. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres évalue le message et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise, afin que vous puissiez tous profiter l'un après l'autre, afin que tous soient instruits, que tous soient encouragés, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'humilité est de mise. Il faut accepter de se faire couper la parole. Des fois, on pense que c'est nous qui avons la meilleure des choses à dire. Ben non, l'apôtre Paul dit non, il faut accepter. Si une autre personne prend la parole, eh ben on se tait. Accepter de se faire couper la parole. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il ne s'agit pas de phénomènes de transe, il ne s'agit pas d'une personne qui parlerait, qui ait perdu le contrôle d'elle-même. Ça, c'est pas la prophétie telle que nous le présente le Nouveau Testament. L'humilité est de mise. Et également, donc, que deux ou trois parlent et que les autres évaluent le message au verset 29. Par rapport à cela, donc toujours examiner les prophéties. Ça, c'est un commandement très clair. Alors, on peut lire ce qui l'apôtre a écrit, qu'avait écrit à l'église de Thessaloniciens. C'était un de ses premiers épîtres. Donc, c'était une toute jeune église, l'église de Thessalonique. Et voilà ce qu'on lit au chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, verset 19, il donne des recommandations. Il n'est passé que quelques semaines dans cette église qui a été fondée. Et puis, il a fallu qu'ils se débrouillent avec les dons qu'ils avaient, et notamment le don de prophétie. Mais c'était déjà à ce moment-là, voilà ce que l'apôtre disait. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Examinez toute chose et retenez ce qui est bon. Voilà la responsabilité des frères et des sœurs par rapport à la prophétie. Donc c'est un don faillible. Ce n'est pas un don infaillible. Seulement les apôtres avaient des dons infaillibles, une autorité incontestable. Mais pour les autres, et dont les prophètes, ah ben, si une personne donne une prophétie, il fallait examiner ce qui était dit. Pourquoi ? Par rapport à l'analogie de la foi, dit Romains chapitre 12, verset 6, c'est-à-dire, est-ce que ce qui est dit là est conforme à l'enseignement de la Bible ? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu ? Est-ce que ça rentre dans le cadre ou est-ce que c'est quelque chose qui, ne vient pas du Seigneur ? Et donc, il y avait ce travail à faire. Alors, si c'est un don faillible, si c'est un don qui n'est pas parfait, ça veut dire qu'il est aussi à notre portée, parce que nous sommes des personnes qui sommes faillibles, on le sait. On n'est pas des super chrétiens, super spirituels. Hein. Cela amène ce don aussi à notre portée. Le fait qu'il y ait une vérification est rassurante. Autrement, personne n'oserait ouvrir la bouche. Hein. Qui aurait cette présomption. Toujours examiner. Alors, quelle application pour l'église de Figeac ? Prophétiser est un défi, écouter aussi c'est un défi. Est-ce que nous avons besoin que Dieu nous parle ? Est-ce que nous venons le dimanche en nous attendant à ce que Dieu nous parle ? Est-ce que nous sommes prêts à écouter ? Nous devons, dans les cultes, nous écouter les uns les autres. Nous écouter les uns les autres. Car Dieu peut utiliser n'importe qui d'entre nous. Nous avons un moment de louange libre. C'est le moment où l'Église s'adresse à Dieu. C'est aussi le moment où l'Esprit Saint peut inspirer à l'un ou à l'autre une parole, de lire un passage de la Bible, un verset de la Bible à lire. Être inspiré de choisir un chant, de dire une parole, que tout se fasse pour l'édification, dit l'apôtre, que tout se fasse pour construire le peuple de Dieu. Moi, personnellement, lorsque j'ai des décisions importantes que je dois prendre, qui concernent ma vie, j'aime bien repousser toujours la prise de décision finale le dimanche, après le culte. C'est là, le dimanche après le culte, que je sais que j'aurai les idées les plus claires pour prendre les décisions. Est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je ne dois pas faire ça? C'est la conviction que j'aurai quand je sortirai de la salle de culte. C'est celle-là que je vais suivre. Il y a également en bonne place la prédication. C'est le moment privilégié où toute l'Église se met à l'écoute de Dieu. Et il y a plusieurs façons d'apporter la parole de Dieu, comme on dit, plusieurs façons également de l'écouter. Donner une prédication, alors il peut y avoir de la spontanéité dans le travail de prédication, il peut y avoir également le fruit d'un dur labeur, mais dans les deux cas, l'objectif est que ce soit inspiré par Dieu, que ce soit un message où Dieu parle, qu'il y ait eu du travail, ou que ce soit quelque chose qui soit plus spontané. Pour ce qui est du travail, prendre un texte, comprendre ce que le texte veut dire, pourquoi il est là dans la Bible, qu'est-ce qu'il a à dire et qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui à nous qui vivons au XXe siècle. Et donc il y a cette transposition d'un message qui a été écrit depuis 2000 ans et dans la situation aujourd'hui, voilà ce que ça veut dire pour nous. Ça fait en quelque sorte un ainsi parle l'Éternel, et sachant que c'est la Bible qui parle. Si la doctrine ne change pas, les illustrations et les applications ont une dimension prophétique certaine. Et nous le savons bien. Ça, c'est pour la prédication, la préparation et l'écoute de la prédication, ou l'écoute des uns des autres dans l'Église. C'est valable aussi. Alors, vous savez, le problème qu'avaient les prophètes de l'Ancien Testament, c'est qu'ils n'étaient pas écoutés. Parfois, ils étaient écoutés, mais d'une manière générale, ce qui ressort de l'histoire d'Israël, c'est qu'ils n'ont pas écouté les prophètes qui leur ont été envoyés. Alors, que ce soit pas notre cas à nous, hein, que ce soit pas notre cas à nous, comment faire? Il faut écouter avec foi, en s'attendant à ce que Dieu me parle, s'attendre à ce que Dieu nous parle. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute, et venir dans une attitude d'écoute, et vraiment avoir la foi de Dieu va me parler, c'est pas ce frère, c'est pas cette sœur. S'attendre à ce que Dieu parle. Être ouvert au changement et prêt à obéir, c'est ça généralement qui coince, parce qu'on veut entendre ce qu'on a bien envie d'entendre, et le reste, on ne veut pas l'entendre parce que ça demande des changements, et les changements, on n'aime pas ça. D'être disposé, prêt à obéir, parle ton serviteur, écoute. C'est cette attitude-là qui est difficile, en fait. Écouter, c'est ce qui est le plus compliqué par rapport à la prophétie, être capable d'écouter. Notre application, l'aspiration au don de prophétie. Alors, il ne s'agit pas d'annoncer des doctrines nouvelles, de parler le Nouveau Testament est clos, il n'y a rien à y rajouter. Il s'agit de se laisser utiliser par l'Esprit Saint pour faire du bien à un frère, à une sœur, à l'Église, pour faire du bien, pour édifier, construire, encourager, consoler. Voilà. Comment le faire? Toujours avoir être au service de l'amour. Si nous sommes remplis d'amour, si nous sommes pleins de très bonnes dispositions, hein, avec courage, hein, on a droit à l'erreur, on peut prendre la parole et dire quelque chose si le Saint-Esprit nous pousse, on a droit à l'erreur, on est loin des stéréotypes, ne cherchons pas à imiter telle ou telle personne ou telle façon de faire, mais de se laisser conduire par ce que le Saint-Esprit veut faire, Et c'est, je dois le reconnaître, c'est pas quelque chose qui est naturel. Et puis quand on le fait, si il y a le danger de jamais le faire, le danger de, pour d'autres peut-être de trop le faire. Et ça dépend des églises, ça dépend des milieux chrétiens, mais que le Seigneur puisse nous utiliser pour faire du bien autour de nous, à un frère, à une sœur qui a besoin d'être consolé, d'être encouragé. Voilà. Même si on ne sait pas qui c'est, même si parfois on le sait également, que le Seigneur nous guide. Hein. On a tous envie d'apporter un verset, un encouragement à un frère et une sœur, comme venant de la part du Seigneur. Voilà, le Seigneur m'a mis ça à cœur pour toi. Voilà, je te le dis, je voudrais te le dire. J'ai pensé à toi, j'ai pensé à ce verset. Voilà, je te le donne, hein, et pour encourager, pour édifier, pour construire, pour bâtir, que le Seigneur puisse utiliser librement chacun d'entre nous. Amen, frères et sœurs. Seigneur, nous sommes bien tout petits, nous sommes inondés de difficultés, de problèmes que nous avons à porter nous-mêmes, et nous avons tellement besoin de secours, tellement besoin de nous-mêmes, d'entendre ta voix, d'être conduit sur ton chemin, sur ton sentier, Seigneur. Combien de fois nous voudrions recevoir le conseil qui nous manque, combien de fois nous voudrions recevoir la consolation qui nous manque, combien de fois on souffre. Et voilà, la consolation ne vient pas, nous en avons tellement besoin. Seigneur, merci de nous apprendre à nous ouvrir pour les autres. Seigneur, à être rempli d'amour, que tu puisses nous utiliser, Seigneur. Même dans notre église, nous ne sommes pas nombreux, nous on se connaît tous, c'est pas comme les grandes structures, Seigneur. Mais Seigneur, que l'on puisse se faire du bien les uns aux autres, s'encourager les uns aux autres par des paroles venant de toi, Seigneur, venant de toi. Merci, Seigneur, pour ton Église. Merci parce que c'est toi qui l'édifie, qui la consolide, qui la construit, Seigneur. Et c'est parce que c'est toi qui le fais que nous sommes là. Et merci que tu fais, nous parles aussi à tous en tant que groupe, en tant que communauté, Seigneur. Et là aussi, nous avons besoin de toi. Nous allons avoir notre assemblée générale. Seigneur, la semaine prochaine, combien nous avons besoin de toi. Combien nous avons besoin que tu nous conduises, que tu nous diriges dans ce moment particulier, que tu nous fortifies, que tu nous encourages, Seigneur. Merci de le faire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.